Bienvenue sur le podcast Murmuricain. Moi, c'est Audrey et je suis convaincue que pour avancer ensemble vers un monde meilleur pour nos amis les chevaux, la clé est d'apporter à chaque propriétaire de cheval une compréhension et une connaissance solide de son compagnon en crinière. Bien évidemment, il est impensable de laisser les humains sur le bord de la route du bien-être. Ta santé émotionnelle est donc également abordée dans ce podcast. Et tous ces sujets sont baignés de bienveillance et de bonne humeur avec une touche d'humour. Tous les vendredis, tu retrouves donc une alternance d'épisodes enregistrés par moi sur des sujets variés autour des soins en chevaux, ainsi que des interviews de propriétaires de chevaux inspirants pour t'aider sur ton chemin d'humaine de cheval exceptionnel. Je te souhaite une bonne écoute de cet épisode. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Murmuricain. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet dont on n'a pas beaucoup parlé. On l'a abordé déjà avec Mélanie Gisler de Alimentation Équine. Et là, je vais l'aborder moi-même. Donc, vous vous en doutez, si c'est un sujet qu'on a déjà abordé avec Mélanie, ça va parler d'alimentation. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance de l'alimentation pour la bonne santé du cheval, en fait. Je vais faire tout de suite mon petit teasing qui va être en même temps ma conclusion de l'épisode. Qui est que si votre besoin est de maintenir votre cheval en vie, bon, l'alimentation, c'est pas forcément le point principal. Enfin, il y aura pas vraiment de problématique à maintenir votre cheval en vie. Par contre, si vous voulez maintenir votre cheval en vie en bonne santé, là, l'alimentation va vraiment être un point crucial à aborder pour votre cheval. Donc, du coup, c'est parti. Pourquoi est-ce que l'alimentation de votre cheval est importante pour le maintenir en bonne santé? L'alimentation du cheval commence par sa bouche, passe par son système digestif, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, le gros intestin, le côlon, le rectum, et finit en crottin. Là, normalement, tous les cavaliers savent, surtout ceux qui ont mis les mains dans la merde et qui nourrissent les chevaux et ramassent leur crottin. On se rend très vite compte que les deux sont corrélés. Mais l'étape cruciale de l'alimentation du cheval, qui échappe souvent au propriétaire du cheval, c'est que l'alimentation permet de nourrir le cheval, mais permet surtout de nourrir ses cellules. Il y a une échelle plus petite qu'on a du mal à voir sur l'alimentation du cheval, c'est l'échelle cellulaire et le fonctionnement de chaque cellule. Chaque cellule présente dans le corps du cheval a un rôle, a une fonction, a un but, on va dire. Ah, je déteste ça. Mon professeur de prépa nous disait tout le temps, une cellule n'a aucun but, une cellule n'a aucune volonté. Une cellule est une cellule, elle a pas une intelligence propre. Et toujours est-il que c'est une bonne visualisation. Chaque cellule du corps, du cheval et du corps humain, est faite pour remplir une fonction. Souvent pour produire, en fait, quelque chose. Faire quelque chose, entre guillemets. Et pour faire ce quelque chose, pour produire ce quelque chose, la cellule a besoin, en fait, d'entrants. Elle va sortir des choses, des fonctions, mais elle a besoin aussi d'entrants. Et c'est le même principe que le cheval, qui à l'échelle du cheval, le cheval a besoin d'entrants pour faire sortir des choses. Il a besoin de nourriture pour faire sortir du crottin. La cellule, c'est pareil, mais c'est à l'échelle de la cellule, donc à une échelle beaucoup, 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 beaucoup plus petite que l'échelle du cheval. Ces entrants dans une cellule, elles peuvent être fournies par deux voies. Soit c'est l'entrant des nutriments qui sont directement fournis par l'alimentation, soit c'est des entrants d'éléments qui sont déjà présents dans le corps du cheval. Et ces entrants sont forcément issus de l'alimentation. Et il peut y avoir des étapes entre le moment où le nutriment pénètre dans le corps du cheval, donc passe la barrière, souvent de la barrière du système digestif, souvent la barrière intestinale, et le moment où ça va être vraiment utilisé, quelle est la destination finale de ce nutriment. Et il peut y avoir plusieurs étapes entre ce moment où le nutriment passe la barrière intestinale et le moment où il est vraiment utilisé par la cellule. il peut y avoir plusieurs étapes. Ensuite, quels sont du coup les nutriments dont ont besoin les cellules du cheval? Premièrement, le plus important, toutes les cellules ont besoin d'énergie. Sous forme de glucose ou sous forme de lipides. Donc sous forme de sucre ou sous forme de gras. C'est vraiment le carburant de tout le corps, c'est la base de la base de la base. Sans glucose ou lipides, le corps ne peut pas fonctionner à long terme. Il ne peut pas fonctionner, souvent pas du tout fonctionner, et en tous les cas ne peut pas fonctionner à long terme. Et long terme, on parle de quelques jours à quelques semaines, on n'est pas sur du long terme. Le corps ne peut pas survivre pendant des années sans glucose, enfin pendant des mois ou des années sans glucose ou lipides. Et ça, c'est vraiment la base de la base de la base. C'est le premier point à regarder. Quelle énergie est fournie au corps? Vraiment. Avant de regarder tout le reste, on regarde vraiment quelle énergie est fournie au corps. Le deuxième point à regarder, il faut le voir un peu comme une pyramide en fait. Voir les nutriments, faut les voir comme des pyramides. Donc, l'énergie, c'est vraiment la première brique de la pyramide. Et ensuite, il y a d'autres briques qui viennent au-dessus, mais qui ont une importance de plus en plus précise et donc, entre guillemets, de moins en moins fondamentale. Ou en tout cas, que le corps a de plus en plus de mécanismes pour pallier à un manque. Et justement, pallier à ce manque, on en reviendra. La deuxième brique de la pyramide, c'est les protéines. Les protéines sont dégradées en acides aminés qui permettent la création de nouvelles protéines qui vont avoir différentes fonctions dans le corps. Les différentes fonctions des protéines dans le corps, ça va être généralement des fonctions de structure cellulaire. Tout ce qui donne sa forme à un cheval, ça va être de la protéine. Et ensuite des fonctions enzymatiques. Les fonctions enzymatiques, elles vont avoir comme but de faciliter, accélérer, déclencher certaines réactions d'autres cellules. Les protéines vont aussi avoir une fonction importante de transport d'autres nutriments. Elles vont servir de petits bateaux pour transporter un nutriment d'un endroit à un autre. Et aussi une fonction de transport de l'oxygène, qui est aussi une des bases du corps du cheval, enfin une des bases du fonctionnement du corps du cheval. C'est vrai que l'oxygène est une des bases qui n'est pas fournie par l'alimentation, c'est fournie par la respiration. Les protéines vont aussi avoir des fonctions hormonales et des fonctions dans le système immunitaire. Les anticorps, ce sont des protéines. Donc, sans protéines, le cheval va avoir du mal à créer des anticorps ou assez d'anticorps. Voilà, et donc à combattre des infections. Et les protéines ont des fonctions de régulation génétique, d'expression plus ou moins forte de certains gènes. Le troisième étage de la pyramide des besoins du cheval, donc après l'énergie, après les protéines, ça va être les minéraux. Les minéraux, c'est des matériaux en fait inertes. Le meilleur exemple, c'est le fer. Ben, vous connaissez le fer sous forme d'un fer à cheval, hein, par exemple. On est d'accord que c'est une substance qui réagit peu. Une substance qui est peu active. Mais qui a quand même des fonctions qui sont très importantes. Les minéraux ont notamment des fonctions aussi structurelles. Les os, du calcium. Le calcium est un minéral. Donc, sans calcium, on ne peut pas avoir des os solides. J'ai l'impression de faire une pub pour Nesquik. Mais c'est vraiment le cas. Il faut du calcium pour avoir des os solides. Il faut qu'il y ait en tout cas assez de calcium pour pouvoir construire des os d'une assez bonne qualité, une qualité suffisante. Les minéraux ont aussi des fonctions de structure musculaire et des fonctions de structure dentaire et des sabots. C'est vraiment important pour que votre cheval ait des sabots en bonne santé. Il y a des minéraux qui vont être essentiels à la synthèse d'une corne de qualité suffisante. On parle beaucoup du cuivre et du zinc pour la santé des sabots du cheval. Et oui, parce qu'en fait, le cheval a besoin de cuivre et de zinc pour synthétiser des sabots en bonne santé pour faire pousser ces sabots. Et les sabots, on est d'accord, ça pousse en continu, le cheval. Donc le cheval a constamment besoin d'apports en cuivre et zinc, notamment suffisants pour faire pousser ses sabots. Pour faire pousser des sabots avec une bonne structure. Donc une structure bonne pour nous, ça va être une structure solide, qui va résister, qui va être assez solide pour résister aux contraintes mécaniques qui lui sont appliquées. Et en parlant de cuivre et de zinc, on va aussi parler des fonctions de transport des minéraux. Certains minéraux ont des fonctions de transport d'une partie du corps à une autre. Ils permettent de faire passer les molécules au travers des barrières, notamment des barrières cellulaires. Et souvent, il y a une notion d'équilibre, en fait, à avoir. Parce que, dans le corps, souvent, pas de manière systématique, mais les échanges sont à double sens. Le corps a assez optimisé, enfin, les cellules ont assez optimisé leur fonctionnement. C'est-à-dire qu'une cellule qui rentre, ça veut dire une cellule qui... un nutriment qui rentre dans la cellule égale un nutriment qui sort de la cellule. Et donc, il y a cette fonction d'équilibre. Quand on fait rentrer quelque chose, on fait sortir quelque chose. Ce qui implique des fois d'avoir des équilibres entre certains minéraux, justement pour permettre ces fonctions de transport. Les minéraux ont aussi une fonction de régulation de la répartition des liquides dans le corps. Justement, par cette fonction de transport, il y a beaucoup de minéraux qui participent au transport de l'eau au travers d'une membrane. Transport de liquide au travers d'une membrane. Ce qui va être important pour ne pas avoir trop de liquide dans une cellule ou pas assez dans une cellule. Donc, c'est des fonctions d'hydratation, maintien d'hydratation, qui sont très importantes. Les minéraux ont aussi des grandes fonctions transmission nerveuse. Sans minéraux, beaucoup de transmissions nerveuses ne peuvent pas se faire. Donc le système nerveux ne peut pas fonctionner correctement, ne peut pas donner des ordres cohérents. Et donc on peut avoir des problèmes de transmission nerveuse. Les minéraux ont également des fonctions enzymatiques et des fonctions de soutien du système immunitaire. Et la dernière brique de notre pyramide, ce serait les vitamines. Les vitamines, elles, ont vraiment une fonction de soutien du corps, on va dire. Alors, elles servent comme coenzymes, c'est-à-dire qu'elles vont aider certaines enzymes pour faciliter, accélérer ou déclencher certaines réactions dans le corps du cheval. Les vitamines ont des fonctions antioxydantes, c'est-à-dire qu'elles vont protéger les cellules et les tissus de l'oxydation pour qu'ils restent en vie, pour que les cellules et les tissus restent en vie le plus longtemps possible. Les vitamines ont également des fonctions de régulation génique, de soutien du système immunitaire et inflammatoire, et d'aide à la formation de tissus en participant notamment à la fixation de minéraux. Je vais encore reprendre la pub de Nesquik, hein. Mais un humain, pour avoir des os solides, a besoin de calcium et de vitamine D. Désolée, j'ai grandi avec cette pub Nesquik, j'ai le lapin là qui est en train de danser devant moi, qui est en train de danser dans ma tête. C'est exactement ça. Le corps a besoin de minéraux et de vitamines. Mais de base, le corps a surtout besoin d'énergie, ensuite de protéines, ensuite de minéraux, ensuite de vitamines. C'est-à-dire si on devait faire une hiérarchie. Ne m'arrachez pas la tête tout de suite, le corps a besoin de ces quatre éléments. Mais si on devait faire une hiérarchie, d'abord de l'énergie, ensuite des protéines, ensuite des minéraux et ensuite des vitamines. Je fais juste une petite note, c'est qu'il y a un renouvellement cellulaire aussi qui est quasi constant. En plus des besoins des cellules pour fonctionner, il y a un besoin de créer de nouvelles cellules. Donc il y a deux besoins en nutriments, deux besoins essentiels, le besoin de production et le besoin de recyclage des cellules, le besoin de construction de nouvelles cellules. Là, normalement, vous avez quand même compris l'intérêt d'apporter tous les nutriments nécessaires à votre cheval. Au moins pour le maintenir en vie. Vous avez vu les fonctions qu'ont l'alimentation dans tout le fonctionnement du corps du cheval. Donc vous avez compris que le cheval a vraiment besoin d'aliments pour rester en vie. Enfin, c'est une base. Hein. C'est une base quand même très importante. Par aliment, on entend solide et liquide. Le cheval a besoin d'eau aussi pour rester en vie. Et normalement, c'est pas très compliqué d'assurer les besoins d'un cheval pour qu'il soit maintenu en vie, on va dire. D'apporter suffisamment d'énergie au corps du cheval. Dans les pays où est écouté ce podcast et par les gens qui écoutent ce podcast, c'est normalement pas très compliqué d'apporter assez d'énergie au corps du cheval. Si on n'apporte pas assez d'énergie, on a des chevaux qui sont sous-nourris, donc on a des chevaux qui sont très très maigres. Voilà, mais on le voit quand même de moins en moins, en France en tout cas. Mais maintenant, pour les personnes qui écoutent ce podcast, vous savez que maintenir son cheval en vie, et maintenir son cheval en vie et en bonne santé, c'est pas du tout le même bail, hein. C'est pas du tout la même chose. Et là, on sait que ça devient compliqué de maintenir son cheval en vie et en bonne santé. Le deuxième point peut être plus compliqué à avoir. On va donc distinguer deux types d'alimentation. Alors, cette distinction, c'est un peu moi qui l'ai créée, hein. J'ai décidé de cette distinction là pour cet épisode de podcast, hein. Pas une distinction universelle. On va donc distinguer une alimentation qu'on va appeler de production et une alimentation santé. L'alimentation de production, en effet, pour garder, on va dire, un cheval en bonne santé, et ça va être une alimentation qu'on va avoir plutôt de groupe, qui va s'intéresser à des groupes de chevaux, à des groupes d'individus, en tout cas. C'est l'alimentation que vous allez avoir quand vous allez acheter un aliment ou un complément, et que cet aliment va vous dire donner 50 grammes pour un poney, 100 grammes pour un cheval. Vous voyez, on a fait des groupes, on a fait le groupe poney, on a fait le groupe cheval. Vous pouvez aussi avoir ça, par exemple, sur les compléments pour prendre du muscle. Vous allez avoir cheval à l'entretien, cheval de loisir et cheval de compétition. On a fait des groupes et on est parti du principe que on a pris la moyenne des besoins de ce groupe. On a pris la moyenne des besoins des chevaux de sport. On a pris la moyenne des besoins d'un poney par rapport aux besoins d'un cheval, qui sont en effet très différents. Ça va aussi être les aliments que vous allez voir, par exemple, ce CMV convient à tous les chevaux. Donc ce complément minéraux et vitamines convient à tous les chevaux. Ce complément minéraux et vitamines convient à la moyenne des chevaux. Convient à la moyenne des chevaux. Tandis que pour une alimentation plus santé, on va aller en fait vers une alimentation individualisée qui prend en compte les besoins de l'individu et non pas les besoins du groupe. Ou en tout cas, on va essayer de réduire le plus possible ce groupe pour tendre vers l'individu. Parce qu'on le sait, enfin, j'espère que vous le savez, qui écoutait cet épisode de podcast, c'est que un cheval, c'est des besoins qui sont uniques et qui sont normalement très différents du voisin cheval, de l'autre cheval d'à côté. On sait très bien que un cheval emphysémateux, avec une maladie d'éthique, et puis qui a peut-être 25 ans, c'est très différent des besoins d'un cheval qui fait de la compétition, qui n'a pas de problème de santé, mais qui a peut-être des petits problèmes de pied, de santé des sabots, et qui a 10 ans, et que les besoins d'un poulain qui est en croissance, c'est encore différent. Surtout si ce poulain, il a été peut-être carencé à sa naissance, et que maintenant il a 1 an, et que, ben voilà, il n'aura pas les mêmes besoins qu'un autre cheval. D'une autre race, d'un autre âge, qui a grandi autrement, qui a une autre histoire de vie. Chaque histoire de vie des chevaux est tellement différente qu'on a un cheval, un besoin, quoi. Un ensemble de besoins. C'est là que l'alimentation devient vraiment importante, c'est le moment où on va devoir définir les besoins uniques de l'individu cheval. Et ces besoins vont être différents des besoins qui ont été établis pour un certain groupe de cheval, donc des besoins de table généraliste, des besoins groupés, des besoins moyens chez un cheval. Et pour l'alimentation, on doit définir les besoins du cheval et ses apports. Et là encore, il y a une quantité d'individus qui n'ont absolument pas les mêmes apports. D'un pré à un autre, il n'y aura pas les mêmes apports pour le cheval. D'une région à une autre, il n'y aura pas les mêmes apports. Si votre cheval est nourri à l'herbe ou s'il est nourri au foin, il n'aura pas les mêmes apports. Et encore, dans l'herbe et dans le foin, on a des variations individuelles de l'aliment foin ou de l'aliment herbe. Et donc, du coup, on a vraiment besoin, en fait, d'observer le cheval et son environnement pour bien comprendre les besoins du cheval et ses apports. C'est là, malheureusement, où je vais devoir arrêter cet épisode de podcast parce qu'on va rentrer dans des choses qui vont être trop individualisées. C'est là où je vous ai mené. Ça va être des besoins qui vont être très individualisés, donc que je ne peux pas faire pour un épisode de podcast qui va être écouté par 800 à 1000 personnes en moyenne pour ce podcast. Ça marche pas. Mon dernier point, c'est que la nutrition, c'est très très attractif parce qu'on se dit que c'est une science exacte, il y a des chiffres, il y a des tableaux, il y a des calculs. Ça fait du bien pour les personnes rationnelles qui ont besoin de contrôler. Et en fait, ça c'est ok pour une alimentation, on va dire, de production. C'est totalement ok d'avoir des calculs, de tout faire sur Excel quand on a des besoins définis, quand on a une alimentation de groupe qui est définie. Mais quand on veut aller sur une alimentation de santé individualisée, malheureusement la nutrition n'est plus une science exacte. Ce n'est plus une science exacte, c'est une science qui va devoir s'adapter à l'individu, donc par des observations, par des essais, par des observations. Qu'est-ce que ces essais ont donné pour l'individu? Et c'est mon message que je vous ai donné en introduction, et mon message que je vous redonne en conclusion. Si vous voulez nourrir votre cheval qui reste en vie, ben, ma foi, une alimentation plutôt généralisée, ça marche. Hein. J'ai envie de vous dire, donnez-lui 90% d'apport en fourrage, donc herbe ou foin. Donnez-lui un apport plus ou moins énergétique, selon sa race, on va dire. Et puis après, donnez un complément minéraux et vitamines convient à tous les chevaux, entre guillemets. Ah, je veux dire, un cheval classique, on pourrait très bien se dire, bah, 90% de fourrage, 2 litres de compléments potentiellement sans céréales, plus ou moins sans céréales, selon ses besoins, et 30 grammes d'oligovite, on est sur une alimentation production qui est relativement efficace. Voilà. Maintenant, si vous avez des besoins, en fait, d'alimentation santé parce que votre cheval a des problèmes de santé ou parce que vous voulez éviter ces problèmes de santé, je vous invite vraiment à faire appel à une nutritionniste pour vous aider à définir les besoins de votre cheval et ses apports et donc comment compléter ses apports pour que votre cheval reste en vie le plus longtemps possible en bonne santé. Et c'est vraiment le message avec lequel je veux que vous repartiez. Il n'existe pas un aliment qui convient à tous les chevaux. Il existe des aliments qui conviennent à la moyenne de tous les chevaux français, mais il n'existe pas d'aliment qui convient à tous les chevaux et qui vous garantit un cheval en bonne santé le plus longtemps possible. Voilà. L'idée que je voulais défoncer avec avec cet épisode de podcast, parce que chaque cheval a des besoins structuraux, de régulation génétique, immunitaire, hormonaux, de transmission nerveuse, des besoins enzymatiques qui sont vraiment différents. Donc, on ne peut pas dire que cet aliment est adapté à tous les chevaux, que cet aliment est adapté à ce groupe de chevaux. Un aliment vraiment adapté, il est adapté à un individu. Ça, aucun fabricant d'aliments ne vous le garantit. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode de podcast. On arrive sur sa fin. La semaine prochaine, je vous donne rendez-vous pour une interview de Harmony et de sa jument Kayla, qui va justement nous montrer l'intérêt, enfin nous montrer l'intérêt qu'elle a eu à acheter une pouliche, une jeune jument, et quels ont été les enjeux en fait de la croissance de sa jument pour la garder en bonne santé, et quels ont été tous les paramètres l'ont influencé sur la bonne santé de sa jument adulte qui a maintenant 4 ans, mais au cours des 4 premières années de sa vie. C'est un témoignage qui est ultra intéressant pour les personnes qui notamment voudraient un jour s'acheter un poulain, ou pour les personnes qui se questionnent sur la santé de leur cheval et qui comprennent pas en fait là pourquoi leur cheval est en mauvaise santé. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Encore merci de votre écoute et à très vite.
C'est la fin de cet épisode de podcast. S'il t'a plu, tu peux le partager à une personne de ton entourage qui pourrait également l'apprécier. Tu peux également venir me dire ce que tu en as pensé sur le compte Instagram murmure.animal. Je te remercie encore une fois de ton écoute et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode pour toujours plus de connaissances pour ton cheval et pour toi.